Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Que de connaître le Seigneur. Jésus est tout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et la plus belle décision qu'on ait prise dans notre vie, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a tellement de choses à l'extérieur qui nous absorbent, qui nous prennent. Qui nous épuise, alors que toute notre énergie doit être concentrée sur chercher à connaître Jésus. Amen. Nous venons sur terre nus et nous repartons nus. Tout ce que nous pouvons accomplir sur la terre ne partira pas avec nous. La seule chose qui partira avec nous, c'est notre foi et notre amour pour le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui pourra t'arriver, quelles que soient les difficultés que tu pourras traverser, quelles que soient les épreuves, les manques, ne lâche jamais la main de Jésus. Amen. N'abandonne jamais Jésus-Christ. La religion pourra venir te dire tout un tas de choses. Je t'assure, Jésus-Christ est bien au-dessus de toutes les religions. Et Jésus-Christ n'a pas créé une religion, il a créé une famille dont nous faisons partie. Alléluia. Voilà pourquoi, pour le nom de Jésus-Christ, je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce surabondante qui repose sur nous. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Père. Louange et honneur sont pour toi, Seigneur. Le rassemblement des peuples est pour toi. Nous nous sommes levés le matin et nous avons parcouru des kilomètres pour venir jusqu'ici. Non pas pour chercher un homme, mais pour chercher Dieu. Alors, honneur et gloire te reviennent. Alléluia. On va se disposer pour ce temps de parole et rentrer dans la présence de Dieu.
Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous?
On peut chanter ça tous ensemble.
Jésus, tu as les paroles de la vie, compagnie, à qui on nous. Oh,
Jésus, il n'est comparable à toi. Agneau immolé, celui qui tient nos destinées entre nous.
contenu, Père. Tu n'as pas regardé à la gloire qui te couvrait. Tu n'as pas regardé à ton statut de Dieu. Non, tu t'es fait serviteur, bien plus bas que les hommes, afin d'aller donner ta vie pour nous. Ne serait-ce qu'un jour dans la semaine pour le Seigneur, nous voulons y consacrer tous les jours. Te connaître est la plus belle des expériences, Seigneur, que nous aurions pu vivre, Père. Alors merci pour la révélation de Christ. Accorde-nous encore davantage d'intelligence et de sagesse afin que nous comprenions qui est réellement Christ pour nous. Seigneur, tu n'es pas un homme, tu es encore moins une religion, non, tu es une personne réelle, Père de grâce. Car tu as dit, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors qu'il y en a beaucoup dehors qui ne te connaissent pas, nous, Seigneur, un jour, tu nous as accordé la grâce d'entendre ta voix résonner profondément dans nos cœurs qui disait simplement, suis-moi. Et nous avons décidé, choisi de tout abandonner pour te suivre. Peut-être qu'il y a encore des choses qui nous retiennent, des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant avec toi. Mais donne-nous suffisamment de force et de courage de rester accrochés à toi. Malgré les tribulations, les persécutions, les difficultés, les rejets et les moqueries, Seigneur, accorde-nous la grâce de rester attachés à toi, de marcher avec toi et de combattre pour l'avancement de ton règne et de ton royaume sur la terre. Oui, nous te servirons, nous et notre maison, nous te servirons tous les jours de notre vie, à notre travail, au sein de nos entreprises, avec notre argent et notre énergie, nous te servirons, Seigneur. Alors, reçois encore ce matin toute la gloire et la louange qui t'est due. Inspire ce culte, conduis ces temps, Saint-Esprit, glorifie Jésus et que toute la gloire soit à notre Père céleste. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Amen. En t'asseyant, dis à quelqu'un, il n'y a personne d'autre que Jésus. Personne. Personne.
aucun chef d'État, aucun président de la République, aucune institution, aucune organisation ici-bas n'a plus de valeur que Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas un président parce que personne ne l'a voté. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Et c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Bonjour à tous. Bienvenue encore à la maison du bâtisseur. C'est bon? C'est bon. Bienvenue encore à la maison du bâtisseur. Dis avec moi, nous sommes à l'ambassade de Christ. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et chaque fois que nous nous retrouvons à l'église, nous ne sommes pas dans un bâtiment religieux. Hein? L'église n'est pas un bâtiment religieux. L'église, est-ce qu'on peut augmenter mon micro, s'il te plaît? Nous ne sommes pas dans un bâtiment religieux, nous sommes dans une ambassade. Et chaque fois que nous nous retrouvons ici, nous sommes en conseil des ministres, nous sommes en réunion des parlementaires de Christ et nous allons parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Amen. Dis avec moi le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est notre maison. Le royaume des cieux, c'est notre... Il n'y a pas assez de signal. Le royaume des cieux, c'est notre maison. Le royaume des cieux, c'est notre patrie. Le royaume des cieux, c'est notre pays. Dis avec moi, le royaume des cieux, c'est mon pays. Et dans notre pays, notre patrie, il y a ce qu'on appelle des lois. Il y a des lois. Il y a des principes. Il y a des normes. Il y a un comportement à avoir. Le jour où tu as rencontré Jésus-Christ et que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens que tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce verset-là qui permet de comprendre pourquoi, lorsque tu étais dans le monde, tu te sentais bien quand tu faisais certaines choses, voire même tu avais de l'argent. Et le jour où tu viens au Seigneur, tout d'un coup, tu n'es plus à l'aise avec certaines choses, avec certaines personnes. Et tout d'un coup, pourtant tu fais la même chose, tu n'as rien changé, mais tu as moins d'argent, des choses comme ça. Et tu ne comprends pas. Et tu dis souvent, parfois il vaudrait mieux retourner dans le monde que de rester en Christ. En fait, tu n'as pas compris que spirituellement, tu es passé dans un autre royaume. Et que ta vie ne dépend plus, ta vie n'est plus déterminée par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce qui se passe dans le royaume. Amen. Donc, si tu veux avoir la bénédiction de l'État gabonais, obéis aux lois de la constitution gabonaise et l'État gabonais te bénira. Il te laissera tranquille et tu jouiras de tous les privilèges de l'État gabonais. Si tu violes une loi de la constitution gabonaise, c'est la police qui va te tomber dessus. Amen. Mais le jour où tu es transféré dans le royaume des cieux, tu ne dépends plus des lois de ce monde. Tu dépends des lois du royaume des cieux. Amen. C'est pour cela que si tu t'amuses en tant que chrétien à violer les lois de Dieu, ce sont ces mêmes lois de Dieu-là qui vont te juger. Amen. Ce sont ces mêmes lois-là qui vont te juger. Donc, il est extrêmement important en tant qu'enfant de Dieu de connaître les lois du royaume. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchez pas à boire, à manger, à vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. » Verset 30, « Votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. » Il sait que vous en avez besoin. Donc, arrêtez de les lui demander. Confiez-vous simplement en sa grâce. C'est tout. Voilà pourquoi le message de la grâce est un message extrêmement important. Parce que tout est grâce dans la vie en Christ. Tout est grâce. Il n'y a rien que nous obtenons par nos propres efforts.
Il n'y a rien que nous pouvons avoir par notre intelligence, nos diplômes, etc. Tout ça, ça peut jouer, oui. Mais tout est grâce d'abord. Amen. Donc, un enfant de Dieu est quelqu'un qui opère par la foi et qui s'attend à la grâce de Dieu. La grâce est le bras tendu de Dieu vers l'homme. La foi est le bras tendu de l'homme vers Dieu. Et c'est par la foi qu'il arrive à saisir la grâce divine. C'est par la foi que l'homme arrive à activer la miséricorde et la bonté de Dieu dans sa vie. C'est seulement par la foi. Tu peux avoir tous les diplômes et toutes les positions sociales que tu veux, tu peux vivre toute ta vie sous la malédiction et être rejeté par Dieu. Pourtant, au regard des hommes, tu as l'air d'être quelqu'un de béni. Mais alors, il y a longtemps que Dieu t'a rejeté. Amen. Donc, on ne s'appuie que sur la grâce. Et Jésus-Christ nous dit que si vous devez faire des efforts dans le royaume, vos efforts doivent se concentrer sur deux choses. Chercher le royaume en la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Tout se fait par lui. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment que l'on ressent. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation qui nous fait trembler et tomber par terre. Le Saint-Esprit n'est pas du tout dans ces choses. Le Saint-Esprit est une personne à part entière qui réfléchit, qui entend, qui parle, sauf que de tes yeux naturels, tu ne le vois pas. Amen. Et je peux vous assurer qu'en ce moment même, il est là avec nous. Il entend tout ce qu'on dit, il voit tout ce qui se passe. Même les choses les plus cachées, il les voit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il est le bâtisseur et c'est lui qui bâtit nos vies. Et quand le Saint-Esprit commence à bâtir une vie, il la bâtit comme quand on bâtit une maison. Il ne commence pas par le toit. Ce qu'on peut appeler le toit, ce sont les choses qui sont visibles dans nos vies. Il commence d'abord par ce que l'on ne voit pas, les fondations, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi ce que nous devons chercher, ce ne sont pas les choses visibles. Parce que les choses visibles, Paul dit qu'elles sont passagères. Nous devons chercher les choses invisibles, les choses qui sont spirituelles. Parce que ce sont les choses spirituelles qui bâtissent nos vies. Et le Saint-Esprit, quand il commence à bâtir nos vies, la première chose avec laquelle il commence, c'est notre manière de penser. Il est le tuteur royal. C'est ainsi qu'on l'appelle à la maison du bâtisseur, le tuteur royal. Dites-moi le tuteur royal. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le tuteur royal? Eh bien, parce que nous sommes des rois. La Bible nous identifie comme étant des rois. Et quand l'enfant du roi, parce que notre père aussi est roi, quand l'enfant du roi vient au monde, même s'il y a papa et maman, on lui attribue une personne qui est avec lui en permanence, qu'on appelle un tuteur. Cette personne n'a qu'une seule mission, c'est lui apprendre à penser comme un roi. Cette personne va l'enseigner, cette personne va rester avec lui 24 heures sur 24, cette personne va dormir avec lui, cette personne va lui apprendre à se tenir à table, à parler, comment on serre les mains des gens. Cette personne lui apprend à s'habiller, à se comporter avec les uns et les autres. C'est son tuteur. On l'appelle le tuteur royal. C'est pour cela que le Père céleste est resté au ciel, il n'est jamais venu sur terre. Notre grand frère, le frère aîné de la famille Jésus, est venu sur terre. Il a vécu 33 ans sur la terre, y compris 3 ans de ministère. Et puis ensuite, il a dit, maintenant je repars à la maison et je m'en vais vous préparer vos chambres dans la maison. Je m'en vais vous préparer des demeures, etc. Donc, ta chambre à la maison est déjà prête. Chambre, c'est entre guillemets. Parce qu'il a appelé ça des demeures. Nos demeures sont déjà prêtes. Il n'y a qu'un seul pays où, dès la naissance, tu es déjà propriétaire d'une maison. C'est le royaume des cieux. Et c'est le jour où tu vas quitter cette terre et que ton corps va rester enterré 6 pieds sous terre et que ton esprit va partir, c'est là que tu repartiras à la maison. Donc, quelqu'un qui est en Christ ne meurt pas. Quelqu'un qui est en Christ ne meurt pas. Quelqu'un qui est en Christ rentre à la maison. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur de la mort. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est de partir trop tôt. Parce que tout enfant de Dieu a un appel sur sa vie. Il vit, il accomplit son appel et puis il repart. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est notre tuteur, commence d'abord à nous enseigner comment penser en tant que fils du roi des rois. Et le plus gros problème que Dieu a avec nous, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Et tout son travail porte sur le changement de mentalité. On doit apprendre à penser comme Dieu. D'où l'importance de méditer et de lire la Bible tous les jours. Parce que la Bible, c'est comme un miroir. Quand tu la lis, elle te renvoie à quoi ressemble ta vie et ce que tu dois changer. C'est comme un miroir. Donc, cette Bible n'est pas un simple livre. Cette Bible est la constitution du royaume des cieux. Dis avec moi la constitution du royaume des cieux. Parce que dans tout pays, il y a une constitution. Le Gabon a une constitution. La France a une constitution. Et le ciel aussi a une constitution. Et dans la constitution de notre pays, que nous appelons couramment la Bible, il y a ce qu'on appelle des lois. Il y a ce qu'on appelle des lois. Et ces lois-là, en tant que citoyen du royaume des cieux, on doit les connaître parce que nul n'est censé ignorer la loi. Celui qui ne connaît pas la loi souffre inutilement et se fait avoir. C'est pour cela qu'en affaires, parce que nous allons parler un peu affaires tout à l'heure, en affaires, les gens dont tu dois te méfier le plus, c'est ton avocat et ton fiscaliste. Parce que dans ce milieu-là, ce sont les deux-là qui maîtrisent la loi. C'est pour cela que la plupart des politiciens de nos jours sont des gens qui ont fait des études de droit. Parce que ce sont des gens qui veulent maîtriser la loi. D'ailleurs, en ce moment au Congo, il y a problème. Pourquoi ? Parce qu'il veut modifier la Constitution, non ? Et le peuple dit non. Pourquoi tu veux modifier la Constitution ? Parce que tu veux rester plus longtemps ? Donc, celui qui maîtrise la loi est celui qui détient le pouvoir. Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pays dans lesquels nous vivons, pourquoi il y a autant de souffrance ? Eh bien, parce que un jour, les hommes ont décidé de mettre en place des systèmes qu'ils appellent systèmes démocratiques. Et ce système démocratique dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, ils ont choisi de prendre quelqu'un parmi nous, de l'élever à la tête de l'État et de dire maintenant, trouve les solutions à nos problèmes. Je veux te poser une question. Nous sommes tous là. On a tous les mêmes problèmes. On est là, on galère, on se bat, on lutte tous. Et puis, on se lève un matin et puis on dit, tiens, nous t'élevons en dignité, trouve les solutions à nos problèmes. Mais tu es avec nous depuis longtemps, tu n'as jamais trouvé les solutions. Tu penses que c'est en t'élevant en dignité que tu vas trouver les solutions? Voici les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais bien que les gens soient intelligents et les gens essaient de faire de leur mieux pour aider les peuples, la solution, c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais créé les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Dieu a créé un royaume. Et Dieu, la différence avec son royaume, c'est que nous ne sommes pas ses esclaves ou ses sujets. Nous sommes ses enfants et nous sommes aussi rois. Amen. Et en tant que roi, on doit connaître la loi. Dis avec moi la loi. Et cette loi-là, pourquoi Jésus-Christ nous dit « Vous devez chercher le Saint-Esprit et la justice de Dieu » Parce que cette loi-là que Jésus-Christ appelle la justice, cette loi-là est le cadre juridique dans lequel nous vivons. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la justice de Dieu, tu dois connaître la loi de Dieu, tu dois maîtriser la Bible. Parce que tout simplement, devant toutes les situations que tu pourras connaître dans la vie, tout sera d'abord spirituel Et parce que tu connais les principes qui sont dans la Bible, parce que tu connais les lois, tu sauras comment te comporter. Par exemple, un jour, les disciples viennent voir Jésus et lui disent, Seigneur Jésus, renvoie la foule, parce que nous n'avons pas de nourriture à lui donner. Jésus-Christ dit, mais donnez-leur vous-même à manger, mais nous n'avons rien. Qu'avez-vous? Juste 2 pains et 3 poissons. Ok, amenez-les. Et là, tout le monde regarde Jésus, stupéfait. On va voir ce qu'il va faire. Il y a 15 000 personnes là, il n'a que 2 pains et 3 poissons. Ça, on aimerait bien voir ce que tu vas faire, Jésus. Jésus-Christ dit, mais moi, je n'ai aucun problème. Je connais les lois, je connais les principes, je connais les clés. Il a activé quelle loi? L'action de grâce. Il a rendu grâce. Il a juste dit, Père, je te rends grâce pour ces pains. Amen. Donnez-leur à manger. Jésus était puissant, hein? Il est puissant. Donc, devant toute situation, tu dois analyser la situation et dire, OK, quel principe je dois activer là? Il y a d'autres situations, tu sais que là, tu dois rentrer dans la prière parce que c'est compliqué et ça ne peut... C'est pour ça que dans le livre de Marc, au chapitre 9, ils viennent voir, un monsieur vient voir Jésus en disant, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui possède mon enfant. Et puis il dit, race de... Il dit quoi? Non, race incrédule et perverse. Et il rajoute 3 petits points. Jusqu'à quand je serai avec vous? Oh, ça fait 3 ans que je suis avec vous. Depuis là, vous n'avez pas vu comment je travaille. C'est quoi votre problème? Et ils se grattent la tête et disent, mais on n'a pas, on comprend pas comment on n'arrive pas à chasser ce démon. Et... il chasse et le père vient, le père dit, oh Seigneur, si tu peux chasser le démon, si tu peux guérir mon enfant, guéris-le. Et Jésus-Christ dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amène ton enfant ici. Le démon sort, le démon s'en va. Et quand Jésus s'en va, les disciples viennent lui demander, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Pourtant, on a la foi, tout ça. On a prié toute la nuit, tout ça, et on n'a pas pu. Jésus-Christ dit, ce type de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Votre problème, c'est votre ignorance. Vous n'avez pas su avec quelle loi opérer. Il y a des moments, la prière suffit. Il y a d'autres moments, tu dois rentrer en jeûne. Il y a d'autres moments, tu n'as pas besoin de rentrer en jeûne, tu déclares une parole, tu décrètes. Il y a d'autres moments, tu ne dis rien, tu attends. Il faut connaître les lois. Et tout ça, comme Dieu sait que toi, tu ne peux pas maîtriser toutes les lois qu'il y a dans la Bible, Dieu dit, Jésus-Christ rajoute, voilà pourquoi vous devez aussi chercher le royaume en la personne du Saint-Esprit, parce que c'est lui le tuteur qui te tient la main et qui te donne les instructions. C'est pour ça que devant toute situation, tu dois toujours prendre le temps d'abord d'écouter le Saint-Esprit. Il te dit quoi faire et ensuite tu agis. Voilà pourquoi David était un homme exceptionnel. Parce que David écoutait le Saint-Esprit. Amen. Ce qui nous a réunis hier, ce qui nous a réunis hier, c'est... Ah, c'est quoi tout ça? Ce qui nous a réunis hier, ce sont les lois du royaume de Dieu pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dis avec moi les lois du royaume pour réussir dans l'entrepreneuriat. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle, quel que soit le domaine qui te concerne, quelle que soit la situation, le problème... Quel que soit le dossier, la famille, la maison, le mariage, comment éduquer tes enfants, comment prospérer dans la vie, gérer ton argent, comment avoir de bonnes relations avec les autres, comment réussir à l'école pour les jeunes, etc. Tout dans la vie repose sur des lois. Dis avec moi les lois. Et ce qui nous a réunis hier, c'est le domaine des affaires. Et le domaine des affaires... est très important. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi parler des affaires à l'église? Le monde à l'extérieur en parle. Pourquoi on parle? À l'église, on parle que de Jésus. On n'a pas besoin de parler des affaires. Faux. Parce que Dieu est aussi intéressé par les affaires. Parce que Dieu veut aussi lever des entrepreneurs dans sa famille. Amen. Et un entrepreneur, on n'attend pas qu'il ait 30 ans ou 40 ans pour commencer à lui parler des affaires. C'est dès le plus jeune âge. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. S'il y a bien une chose que tu n'apprendras jamais à l'école, c'est comment créer des entreprises. Les jeunes, vous allez à l'école encore. On vous apprend à l'école comment créer des entreprises? Non. À l'école, vous avez des matières qu'on appelle management, gestion des entreprises, parce qu'on est en train de vous préparer à être des gestionnaires d'entreprises, de bons employés. On ne vous apprendra jamais à créer votre propre business. On vous apprendra toujours à le gérer, à gérer le business de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que dès que tu sors de l'école, qu'est-ce que tu fais? J'ai mon CV et je cherche du boulot. Ce n'est pas mauvais d'être employé. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois savoir comment être un bon employé, mais tu dois aussi savoir comment créer une entreprise. Parce que Dieu peut t'appeler à créer une entreprise demain. Mais ça, on ne te l'apprendra jamais à l'école. Voilà pourquoi tout le système éducationnel, toute l'éducation que nous recevons dès notre plus jeune âge, nous prépare à être de bons employés. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 25 ans ou de 30 ans, quand tu dis « maintenant je crée mon entreprise », tu as du mal. Pourquoi tu as du mal? Parce qu'on ne t'a jamais appris à faire ça. Tu commences à lire des livres, tu commences un peu à côtoyer des frères et des sœurs qui te disent « oh, crée ton business », etc. Mais tu ne sais pas, tu patauges, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment démarrer. Par contre, si on te dit comment faire pour bien recruter des gens, tu as fait des études de ressources humaines, comment faire pour manager des gens, moi, tu sais, oh, ça, on connaît ça. Attends, on t'a bombardé ça tout pendant des années à l'école. On t'a appris les mathématiques, on t'a appris la géographie, on t'a bourré le crâne de tout un tas de choses. Mais par contre, on ne t'a jamais appris à lever une entreprise. Et pourtant, les gens qui possèdent ce monde, ce sont les gens qui possèdent des entreprises. Amen. Les gens qui dominent dans le monde, ce sont les gens qui règnent sur les économies, sur l'économie du pays. Et ces gens sont à la tête des plus grandes entreprises de ce monde. Et ces gens, ce sont eux aussi qui inspirent les systèmes et l'éducation que nous recevons et que nous donnons à nos enfants. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils préparent. Ils nous préparent dès notre plus jeune âge à travailler pour eux. Et toi, le jour où tu dis, maintenant, nous allons créer des entreprises, vous savez, ce que je dis là, je deviens quelqu'un de dangereux. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis là. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis là. Parce qu'il dit, mais lui, il est en train de préparer des... Il est dangereux, ce gars-là. Il est très dangereux. Mais nous allons le dire au nom de Jésus. Parce que nous, nous sommes appelés à changer la donne. Nous sommes là pour faire la différence. Parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Et pour être la lumière, il faut briller. Et tu peux être un excellent employé dans une entreprise. Et l'un des verrous que cet enseignement sur l'entrepreneuriat vient faire sauter, c'est de te faire comprendre que l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à créer des entreprises. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais s'ils parlent d'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il faut absolument que je crée mon business. Pas obligatoirement. Il y en a qui vont créer des entreprises. Il y en a d'autres qui vont avoir des participations dans des entreprises. Donc aujourd'hui, tu peux être employé dans une entreprise, bien gagner ta vie et avoir des participations dans une autre entreprise. Sauf que toi, tu ne gères pas cette entreprise. Et c'est étonnant de voir comment les enfants de Dieu, les chrétiens, ne s'intéressent pas à l'investissement. Dès qu'on parle investissement ou encore immobilier, à part vouloir construire ta maison, tu ne connais rien d'autre. Pourtant, s'il y a bien une chose dont la valeur ne baissera jamais de toute l'histoire de l'humanité, c'est l'immobilier. Même posséder des actions, c'est moins bon que l'immobilier. Parce que les actions, elles peuvent prendre de la valeur comme elles peuvent perdre de la valeur. Mais s'il y a bien une chose avec laquelle Dieu a fait une alliance, c'est l'immobilier. Regarde, tous les grands hommes dans la Bible, tous les patriarches de Abraham, Isaac, Jacob, chaque fois que Dieu faisait un deal avec eux, il concluait toujours ce deal en leur donnant une terre. Toujours. Parce que Dieu a une alliance avec la terre. Et Dieu, chaque fois qu'il bénit un homme dans la Bible, il lui donne toujours des terres. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de mourir sans être propriétaire. Tu n'as pas le droit. Tu dois posséder ta maison, laisser des biens immobiliers à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Parce que la Bible dit dans Proverbe que l'homme de bien, Proverbe 13, 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, un homme qui a vécu 70 ans, 80 ans ou 100 ans sur la terre et qui part sans rien laisser à son enfant va dire, maudit soit mon père. Tu vois, comment il a vécu toute la vie? Il m'a rien laissé. Papa, tu m'as rien laissé. Toute la vie. Même pas une terre. Voilà pourquoi très tôt, un jeune doit s'intéresser à l'immobilier. Tous les jeunes à la maison du bâtisseur, vous devez vous intéresser à l'immobilier. Oui, tous les jeunes. On aura même des séminaires spécialement sur l'immobilier. Bon, laissez-moi quand même pas arriver. J'arrive d'abord moi-même. Après, je vous montre comment faire. Parce que je vais commencer à dire des choses, après les gens vont dire, mais toi tu parles beaucoup, tu te... Hein? Mais on est en chemin, dis avec moi, on est en chemin. Oui. Et rendez grâce. Parce que Jésus-Christ a dit une parole dans le livre de Matthieu. Il a dit, rendez grâce à Dieu. Parce que les prophètes et les rois auraient voulu voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. T'imagines un jeune de 17 ans ou de 16 ans ici entend ces choses, il les comprend. Il commence à s'instruire sur le monde de l'immobilier. Et puis, il va voir ses parents. Il dit, papa, moi, je veux faire un master 2 en immobilier. Il va te maîtriser la fiscalité, le droit de l'immobilier, tout, tout, tout. Et puis, il rentre dans le domaine de la finance. Et très tôt, avant même l'âge de 30 ans, il est propriétaire de sa maison. Puis, il achète une deuxième. Puis, il achète un terrain. Il devient millionnaire très rapidement. Parce que très tôt, on l'a préparé à ça. Pas être un bon employé. C'est pour ça que hier, je disais que le système scolaire d'aujourd'hui est mauvais parce que les enfants vont à l'école de la maternelle jusqu'à la fin de leurs études. On leur boule le crâne avec tout un tas de choses et c'est seulement à la fin de leurs études qu'on leur demande « Tu veux faire quoi ?» Mais on va te dire « Mais je ne sais pas quoi faire. » Voilà ce qui mine la jeunesse. Les jeunes ne savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils vont dans les rues, à l'UOB, etc. Ils en ont marre. Ils sont énervés, ils n'ont même pas envie d'aller à l'école. Ils disent, mais pourquoi on va même à l'école? On va à l'école, le pays est pourri. On va faire quoi? Mes grands frères, et puis mon grand frère, et mon grand frère, et le grand frère de mon grand frère. Regarde comment il galère, il a même un doctorat. Et puis moi, on me dit d'aller à l'école. Mais je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je préfère arrêter et puis je vais travailler. Je vais me trouver un boulot quelque part. Non, c'est une bonne chose qu'il aille à l'école. Attention, je ne vous ai pas dit d'arrêter l'école. Il faut aller à l'école. C'est une bonne chose d'aller à l'école. Il faut que les enfants aillent à l'école. Mais il faut que très tôt, on leur dise, on leur demande, on les prépare à un métier. C'est d'ailleurs pour ça que le 19 décembre, on fait notre première journée, ma passion, mon métier, trouver sa voie dans sa vie, c'est possible. Amen. Et ce jour-là, on va distribuer des tracts aux sorties d'école, etc., pour qu'on réunisse le maximum de jeunes pour leur apprendre à choisir un métier et à se concentrer dessus. Il va toujours continuer à apprendre les mathématiques, etc., mais dans sa tête, il sait déjà où il va. Et c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire plus tard qu'il choisira des études qui correspondront à ce qu'il veut faire. C'est comme ça qu'on prépare un enfant. C'est pour ça que très tôt, quand tu as un enfant, tu dois déjà l'observer pour savoir ce à quoi il est appelé. Et un jour, petit à petit, le préparer à choisir un métier dans lequel il va grandir. Amen. Donc, l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à créer des entreprises. L'entrepreneuriat consiste aussi à participer à la vie des entreprises, à financer des entreprises, etc. Tu peux être un employé, gagner 1 million, 2 millions, 3 millions par mois, être employé, tu vas tous les matins au boulot, mais quand tu as fini ton travail, tu ouvres le journal ou tu vas un peu sur Internet et puis tu vas sur certains sites Internet et puis tu regardes quelles sont les entreprises prospères dans le pays où... Et puis quand tu vois, il y a une entreprise qui est en train de monter, tu dis, bon, moi si j'ai un petit million ou 2 millions de côté, j'aimerais bien les investir dans cette boîte. Tu vas dans une banque et puis tu dis, je vais acheter des actions dans cette entreprise. Quand tu achètes les actions dans cette entreprise, eh bien, chaque année, je dis bien, chaque année, quand cette entreprise va dégager un bénéfice, ce bénéfice-là, elle prend ce qu'on appelle des dividendes et elle distribue ça à ses actionnaires. Et toi, comme tu seras actionnaire dans cette entreprise, tu vas recevoir chaque année de l'argent, même si c'est 100 000 francs. Je t'assure, le fait d'entendre ça, tu n'as pas le droit de finir pauvre. Tu n'as pas le droit. Amen. Gloire à Dieu. Et hier, en ce qui concerne les affaires, donc entreprendre ne consiste pas seulement à créer des entreprises. Il y a l'aspect création d'entreprise, il y a aussi l'aspect investissement, c'est-à-dire entrer et prendre possession d'une entreprise, donc prendre possession de tes parts à toi. Cette entreprise peut être chrétienne ou même non chrétienne. Amen. Et donc, c'est à ça que Dieu est en train de nous préparer. Et hier, nous avons ouvert, et on va terminer aujourd'hui, il y a certaines lois sur lesquelles j'irai vite. Hier, nous avons ouvert avec la loi du but et la loi de la vision. La loi du but, parce que tout simplement, il est important d'avoir un but dans tout ce qu'on fait. Même si aujourd'hui tu es jeune et que tu vas encore à l'école et que tu dis, moi un jour je rêve de travailler dans tel secteur. Par exemple, si tu dis, moi un jour je rêve de travailler dans l'informatique. Même si tu commences en tant qu'employé dans le secteur de l'informatique pendant des années, tu peux dire, moi un jour j'ai un projet dans ma tête. J'aimerais bien créer quelque chose. J'aimerais bien créer une application mobile. J'aimerais bien créer un site internet qui va faire ceci ou cela. Regarde, dernièrement, il y a 3 semaines de cela, à la rencontre Oser Entreprendre, on était en train de réfléchir sur des projets. Et puis, on avait touché un projet qui touchait aux femmes. Pourquoi ne pas créer un site d'actualité pour les femmes? Pour les femmes. Un site qui donnerait tout un tas de conseils sur tout ce qui touche à la vie de la femme. Ah, moi un jour j'aimerais bien le faire. Aujourd'hui tu n'en as pas les moyens. Ça peut se faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais ce projet tu commences à le nourrir aujourd'hui. Amen. Et après, la question qui doit suivre c'est pourquoi tu veux le faire? Et toi tu peux dire, moi mon appel dans la vie, c'est de pouvoir lever des femmes de valeur en Christ, par exemple. Et je vais commencer au travers de ce site internet. Et ce site internet, demain, peut devenir un magazine. Ce magazine peut devenir une application mobile. Ce magazine peut devenir demain une émission télé. Cette émission télé peut devenir une émission radio. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà pourquoi il ne faut jamais te limiter. La loi du but. La deuxième loi que nous avons vue, c'est la loi de la vision. Dis avec moi la vision. Vous savez, toutes les lois que l'on voit là, ces lois-là, on les évoque dans le cadre des affaires. Mais toutes ces lois-là, elles touchent tous les domaines de la vie. Si toi, par exemple, tu n'es pas intéressé par les affaires, tu peux prendre ces lois-là et les appliquer à ta vie. Ça marchera aussi parce que ce sont des lois spirituelles. Amen. La vision, dis avec moi la vision. La vision est extrêmement importante. Tout ce qui se fait dans la vie part d'une vision. Dis avec moi la vision. Voilà pourquoi c'est la première que j'évoque avec la loi du but. Celui qui n'a pas de vision dans la vie est comme un aveugle qui s'apprête à traverser la route. Un aveugle qui s'apprête à traverser la route, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Il va se faire renverser. Tu vas dire, pasteur, je ne comprends toujours pas ce que c'est que la vision. Ok. Tu te mets ici, tu fermes les yeux et tu essaies d'arriver jusqu'à la sortie. Qu'est-ce qui va t'arriver en cours de route? Tu risques de heurter un obstacle. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quelqu'un, un enfant de Dieu qui n'a pas de vision pour sa vie est quelqu'un qui vit au jour le jour et qui risque de se cogner la tête. Tu dois avoir une vision claire de là où tu vas dans la vie. Amen. C'est très important. La loi de la planification était la troisième loi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans la vie doit être planifié. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 16:1 que les hommes forment des projets, mais c'est au Seigneur qu'appartient le dernier mot. Mais ta responsabilité à toi, c'est de planifier. La quatrième loi que nous avons vue, c'était la loi de l'engagement. Pourquoi? Parce que au bout d'un certain temps, quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, tu devras payer un prix et t'engager. Dis avec moi l'engagement. La cinquième loi, c'était la loi du désir ardent. Parce que tout simplement, tu dois, un feu doit brûler au-dedans de toi. Même si tu as un rêve, sache qu'en cours de route, il y a beaucoup de choses qui viendront te décourager, qui viendront te dire, laisse tomber, retourne travailler comme tout le monde, laisse tomber. Demain, par exemple, si tu dis, moi, je veux être écrivain, je veux écrire des livres, ce sera dur, ce ne sera pas facile. Même si tu as le talent pour ça, mais ce ne sera pas facile d'écrire des livres. Parce qu'une fois que tu as écrit les livres, il faudra les faire connaître, ces livres. Et si tu n'as pas un feu qui brûle au-dedans de toi, tu vas capituler. Quand, par exemple, tu commences l'église comme la maison du bâtisseur, tu penses que c'est facile? Est-ce que tu penses que c'est facile? C'est pas facile. Mais si le feu ne brûle pas en toi, tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Pire encore, si tu n'as pas de vision. Dis avec moi la loi du désir ardent. La sixième loi, c'était la loi du petit commencement. Parce que tout simplement, dans le royaume de Dieu, il y a un principe qu'on appelle le principe de la croissance, où tout commence d'abord petit, ensuite pour grandir. C'est une loi spirituelle. Quand un enfant vient au monde, il vient toujours bébé. Ensuite, il grandit. Donc, si tu te bases sur l'état de petit pour juger ce que la chose est appelée à devenir demain, tu risques de faire une erreur. Parce que tu regardes la chose petite, tu dois croire en ça, et ensuite, elle grandit. Quand une maman tient un bébé entre ses mains, elle ne sait pas qui elle tient entre ses mains. Elle ne sait pas si elle tient un futur Martin Luther King, le futur président de la République du pays. Elle ne sait pas. Elle sait juste qu'elle a un bébé entre ses mains. Mais c'est Dieu qui sait ce à quoi ce bébé est appelé. Toi de même, quand tu commences ton projet est encore petit. Et quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, ne te décourage pas. Parce que ce projet est appelé à grandir. Cette église, par exemple, si tu la regardes à l'état d'aujourd'hui, tu risques de te décourager. Parce que tu vas dire, mais cette église, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Mais en fait, moi, c'est demain que je vois, pas aujourd'hui. Moi, devant vous, là, je ne vois pas, je ne vous vois pas. Je vois 50 000 personnes. C'est ce que moi, je vois. Amen. La loi des petits commencements. La septième, c'était la loi de l'échange, qui répond simplement à la loi de l'offre et de la demande. Tout ce que tu veux faire dans la vie répond à une demande. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Matthieu 7, 7 nous dit Jésus. Tu ne peux pas entamer un projet dans ta vie si en face, il n'y a pas une demande. Regarde, même si tu es employé et que tu cherches du travail, si tu t'amuses à envoyer des CV dans des entreprises qui n'ont pas des besoins, qui ne demandent pas à embaucher, elles ne te répondront pas ou tout simplement elles te diront non. Donc il faut t'assurer que cette entreprise a des besoins. Une fois, il y a une dame qui cherchait du travail et puis elle a envoyé son CV dans une entreprise et l'entreprise ne l'avait jamais répondu, mais elle voulait vraiment rentrer dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est renseignée pour savoir qui était le directeur général de cette entreprise. Et comme par hasard, c'était aussi le monsieur qui avait fondé cette entreprise. Elle a regardé le nom du monsieur, elle a regardé son CV, etc. Et ce qu'elle a fait, elle s'est fait passer pour une cliente et elle est venue à plusieurs reprises dans cette entreprise pour s'asseoir. Elle faisait des fausses demandes et puis elle observait comment les gens se comportaient dans l'entreprise. Elle a trouvé le moyen de rentrer dans certains bureaux en se faisant passer pour quelqu'un qui veut se renseigner. Et puis, en fait, elle observait tout ce qui se passait dans l'entreprise. Elle a même su où était le bureau du directeur général de l'entreprise. Et puis, elle a fait ça à plusieurs reprises. Elle regardait comment les gens sortaient, rentraient. Et un jour, parce qu'en faisant cela, elle s'était rendue compte que le monsieur, le DG, finissait toujours très tard, sauf le vendredi où il partait plus tôt parce qu'il voulait passer du temps avec sa famille. Mais elle savait que ce monsieur ne partait pas avant 19h, 20h. Et elle s'était rendue compte qu'à partir de 19h, il n'y avait plus personne au bureau, le monsieur restait seul. Qu'est-ce qu'elle a fait un soir? À 19h, quand le monsieur était en train de partir, il était en train de fermer et il sort. Elle vient, monsieur, bonjour. Elle dit, monsieur, tant. Il dit, mais comment vous me connaissez? Elle dit, parce que je sais que vous êtes le directeur général de la société, etc., etc. J'ai remarqué, monsieur, parce que je vous ai envoyé mon CV, vous ne m'avez jamais répondu. Et je reçois beaucoup de CV, madame. Oui, mais Votre entreprise a tel problème, elle a tel problème. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé un mail où j'ai listé tous les problèmes de l'entreprise. Si vous m'embauchez, je peux résoudre tous ces problèmes. Et le monsieur Ressler, il a dit, ah. Il a dit, effectivement, j'ai tel problème. On n'a personne qui s'occupe de ça. Ben, si vous m'embauchez, je peux régler ce problème. J'ai remarqué aussi que vous avez aussi tel problème dans tel département. J'ai fait des études de ça, et je peux aussi résoudre ce problème. Est-ce que vous êtes d'accord? D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de m'embaucher tout de suite. Je peux juste venir 3 semaines, et puis ensuite, je vous ferai un rapport. Le monsieur a dit, OK, je ne vous prends pas. Mais par contre, je vous permets de venir faire un audit et de regarder effectivement tous les problèmes. Elle est venue 3 semaines dans la boîte, elle a listé tous les problèmes. Elle a déposé le rapport au monsieur et a dit, mais est-ce que vous voulez m'embaucher? Il a dit, je t'embauche. Elle est forte, hein? La loi de l'échange. Ensuite, nous avons terminé avec la loi de la passion. Parce que tout simplement, tout ce qu'on fait dans la vie doit partir d'une passion. Psaume 42, au verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Tu dois être passionné. Dis avec moi, sois passionné. Le problème que nous avons au Gabon, à beaucoup de niveaux, c'est que les gens ne sont pas passionnés de ce qu'ils font. Les gens se lèvent le matin et les gens vont par paresse. La seule chose qui les motive, c'est le chèque de fin de mois. Et si ce chèque de fin de mois, ils ne l'ont plus, ils n'ont plus envie de travailler. Pourquoi? Parce que la plupart des gens font un boulot, pour ne pas dire un boulet, quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Mon ami, dans la vie, refuse de faire quelque chose que tu n'as pas choisi. Il y a des saisons où c'est le boulot qui te choisit, parce que tu n'as pas le choix. Tu dois gagner de l'argent. Mais il y a d'autres saisons, il ne faut pas laisser le boulot te choisir. Il y a d'autres saisons, c'est toi qui dois choisir le boulot que tu veux faire. Amen. Parce que la vie ne consiste pas à travailler toute la vie et à s'ennuyer. Mon Dieu, Dieu ne nous donne la vie qu'une seule fois. Vous pensez qu'on va la passer toute la vie à s'ennuyer? S'ennuyer. Une fois, je parlais avec un monsieur dans une entreprise et il était vigile de cette entreprise. Il a commencé à avoir les cheveux blancs, tout ça. Et c'était quelqu'un que tout le monde connaissait dans la boîte. Il était vigile à l'entrée. Un peu comme les gars de SGS, là. Et puis, je lui demande, papa, ça fait combien de temps que tu fais le travail, là? Il me dit, ça fait 10 ans. Je lui dis, 10 ans? 10 ans que tu fais ça? Il dit, oui. Tu veux que je fasse quoi d'autre? J'ai dit, mon Dieu, voici un gars qui n'a pas de vision pour sa vie. Il n'est pas passionné par ce qu'il fait. Il le fait juste parce qu'il faut qu'il gagne de l'argent. J'ai dit, tu vas vivre toute la vie comme ça. Mais au bout d'un moment, commence à rêver d'autres choses. Toute la vie. La 9e loi avec laquelle nous allons continuer. Et aujourd'hui, je vais aller vite. J'en ai énuméré 33, ces lois. D'ailleurs, ces lois font l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire, qui sortira en 2016. Et nous ne pourrons pas voir les 33 lois. Nous en verrons que 21 aujourd'hui, si on peut atteindre les 21. On ne sait pas comment le Saint-Esprit peut te prendre, mais bon. La loi du service. Dis avec moi la loi du service. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10 nous dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et l'un des bons moyens d'en gagner est de servir les autres. Sers les autres et les autres te rendront en retour. Et la plupart du temps, ils te rendront sous forme d'argent. Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie, aide les autres à avoir ce qu'ils veulent dans la vie et en retour, ils te donneront de l'argent. Amen. Et cette loi est une loi extrêmement puissante parce que tout simplement, cette loi, quand tu l'appliques dans ta vie, en général, elle a un impact direct sur tes finances. Servir les autres. Dis avec moi, servir les autres. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses disciples, le monde vous tyrannise en vous faisant croire que dominer les autres, c'est en les écrasant. Moi, je vous dis que celui qui veut être le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui est esclave. Ce sont les esclaves dans le monde qui sont les plus riches. Ce sont ceux qui servent les autres qui sont les plus riches dans le monde. Tu n'as pas remarqué? Pendant que toi, tu dors le matin jusqu'à 11h, Cristiano Ronaldo, lui, à 5h du matin, il est debout en train de taper le ballon. pour être le meilleur joueur de football au monde. Il transpire. Entre le maître et l'esclave, qui transpire dans la maison? C'est l'esclave. Le maître, lui, il est assis sur la table, sa chaise, il regarde la télé avec son thé, puis il dit à l'esclave, c'est à moi, s'il te plaît. Et puis il boit. Entre le maître et l'esclave, qui paye l'autre? C'est le maître qui paye l'esclave, n'est-ce pas, pour le service rendu. Pendant que toi, tu danses qu'à 11h, Cristiano Ronaldo tape du ballon. Et ensuite, on t'annonce Real Madrid, PSG. Alors que toi, tu fais ton boulot, dès qu'il est 15h30, 17h, oh, il faut que je rentre vite à la maison parce qu'il y a PSG, Real Madrid. Et puis tu viens, oh les gars, PSG, Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Tu es là avec ta nourriture, tu manges, tu es content. Celui qui est en train de taper le ballon là, tu sais combien il gagne? Pendant que toi, tu payes Canal Plus 40 000 francs tous les mois, parfois tu as même du mal à trouver les 40 000 francs, pour aller regarder un gars qui tape le ballon et qui gagne 1000 fois plus que toi. Il est à ton service. La clé de la réussite dans la vie et de la prospérité, c'est servir les autres. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Qui a besoin d'argent? Lève la main. Tu as besoin d'argent. Eh bien, sache que cet argent n'est pas loin de toi. Il est juste dans la poche de la personne qui est assise à côté de toi. Si tu veux cet argent, crée la passerelle. Crée un service et fais venir cet argent dans ta poche. Crée un business. Dis avec moi, crée un business. Si ce business est bon, la personne qui est à côté de toi sera heureuse de te payer. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc la clé du bonheur dans la vie, c'est de servir les autres. Et je t'assure que l'homme le plus heureux sur la terre, c'est l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le service client. Quand il voit que ses clients sont heureux, il est heureux. Ce n'est pas notre pays, le Gabon, là où le service client laisse à désirer. C'est même eux qui te grondent quand tu rentres dans le magasin. Tu arrives, monsieur, vous voulez quoi? Bonjour. Vous voulez quoi? Mais bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Et elle traîne des pieds. J'ai dit, oh, mais je suis rentré dans le magasin pour acheter quelque chose et elle me traite comme ça.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.